l'application de Mathias. T'as la clé, j'ai pas touché du tout. Donc, non, c'est Luc 3, pardon, pas Luc 2. Luc 3, les versets 15 à 22. Donc, Jean-Baptiste est en train de baptiser. Ils sont dans le Jourdain. Et voilà ce qu'il dit. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Christ. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jésus annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches à Hérode qui régnait sur la Galilée, parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors, Hérode commit une mauvaise action de plus. Il fit mettre Jean en prison. Alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur lui sous forme somatique, comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Et quand j'ai lu ce texte ce matin, je suis restée un moment sur ce dernier verset, sur cette dernière phrase, « En toi, je trouve ma joie. » Alors, je ne m'en souvenais plus quand je vous ai proposé tout à l'heure de rester devant Dieu et de le laisser se réjouir de vous. Je répète. En toi, donc en moi, Dieu, je trouve ma joie en te regardant. C'est ce qu'il a dit à Jésus. En toi, je trouve ma joie. Qu'il en soit ainsi pour ma vie. Alors la différence entre la foi de Jean-Baptiste et la foi chrétienne, on va dire la différence entre Jean-Baptiste, le juif, et la foi chrétienne, celle qui relève du Christ ressuscité, c'est que dans la foi chrétienne, Jésus nous a baptisés dans l'Esprit Saint. C'est une expression qu'on trouve dans l'évangile de Luc et puis aussi dans les actes des apôtres qui ont été écrits par Luc. Dans les actes, Luc mentionne trois fois la promesse de Jean-Baptiste. « Celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Voilà, c'est ça la différence entre le baptême de Jean et le baptême au nom de Jésus-Christ. La différence, c'est une expérience, celle de l'Esprit Saint. Et il est absolument essentiel que chaque chrétien ait fait cette expérience. C'est de cette expérience que Luc part pour parler de Jésus. Luc vivait dans des communautés où cette expérience d'être baptisé dans l'Esprit Saint avait été faite par chaque chrétien. Alors comment est-ce qu'on est baptisé par l'Esprit Saint? La réponse se trouve dans le texte qu'on vient de lire. Jean-Baptiste, on est d'accord, il était rempli du Saint-Esprit depuis quand? Depuis sa conception. Depuis sa conception, dans le ventre d'Élisabeth, il a été rempli de l'Esprit Saint quand Marie a salué Élisabeth. Et pourtant, ce n'est pas Jean qui pouvait nous baptiser du Saint-Esprit. Lui, il baptisait d'eau. Ce baptême d'eau, c'était un baptême de repentance. Et ce baptême de repentance, il était prêché au peuple de Dieu. Il n'était pas prêché à des inconnus, il n'était pas prêché aux païens. Ce baptême de repentance, il s'applique au peuple de Dieu. Nous, quand nous évangélisons, nous n'avons pas à annoncer la repentance à des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons à annoncer Jésus-Christ, Nous avons à annoncer le salut en Jésus-Christ, l'amour de Dieu. La repentance, ça s'adresse à ceux qui connaissent Dieu. Et le baptême de repentance, Jean le dit juste avant, il dit, mais changez de comportement. Enfin, j'ai pas gardé le texte, mais changez de comportement. Il faut que ça se voit. Le baptême de repentance, c'est un changement de vue, de vie, pardon. Un changement de vie en vue de celui qui viendrait après lui. Donc, Jean prêche un baptême de repentance en vue de celui qui viendrait après lui pour baptiser dans l'Esprit Saint. Jean, il ne pouvait faire que promettre ce baptême d'Esprit Saint. Il ne pouvait pas faire quelque chose que quelqu'un d'autre, que plus puissant que lui, ferait. Il est dit que quelqu'un de plus fort que moi vous baptisera du Saint-Esprit. Mais il a posé les conditions pour que tout le peuple d'Israël puisse recevoir ce baptême dans l'Esprit. La repentance, le changement de vie. Notre texte dit de façon très étonnante, alors que tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Tout le peuple a été baptisé par Jean. Tous ceux qui étaient là ont été baptisés par Jean. Et Jésus reprochera à quelques notables, des religieux, d'avoir dédaigné ce baptême de conversion, de repentance. Et même, il ne répondra pas à leurs questions concernant l'origine de son autorité. On ne peut rien expliquer de Dieu à des gens qui refusent de se convertir. S'ils ne veulent pas entendre, on ne peut pas expliquer. Jésus, il n'essaye même pas. Il est Dieu, il est puissant, il baptise du Saint-Esprit. Il n'essaye pas d'expliquer. Qu'est-ce que c'est la repentance? Ce n'est pas la culpabilité. La repentance délivre justement la culpabilité. Pour changer de vie, pour cesser de vivre dans le péché, la culpabilité ne suffit pas. On peut se battre la coulpe tous les matins, c'est pas ça qui nous fait changer. Notre volonté ne suffit pas pour arrêter de vivre dans le péché. On le sait bien, sinon on a tous envie d'arrêter le péché. Et Paul le dit, je fais des choses que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Moi, tous les jours, tous les soirs, je peux dire ça. Ben voilà, j'ai encore raté la cible. Je ne voulais pas ça, puis je l'ai fait quand même. Donc c'est ni la culpabilité, ni la bonne volonté qui nous fait changer de vie, qui nous fait nous convertir. Ce qui nous fait nous convertir, c'est un événement. Et cet événement, il a surgi dans l'histoire humaine. Un autre monde s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché de chaque être humain. Quand Jésus a été baptisé. Cet événement, c'est Jésus baptisé qui nous permet la repentance et qui nous permet le changement de vie. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu somatiquement, c'est le texte, enfin le mot grec qui est traduit par corporellement, je crois, ouais. Je ne sais plus. En fait, c'est somatique. Il est descendu somatiquement, il est descendu de façon incarnée, même le Saint-Esprit s'est incarné. Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus, petit bébé dans une étable, on s'est rappelé récemment, et Dieu s'est incarné sous la forme d'une colombe. Son Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Ça, je ne l'avais jamais remarqué. Dieu est vraiment un Dieu incarné qui vient nous retrouver dans notre incarnation. Et c'est extraordinaire, on a tellement besoin de voir pour croire. Alors, est-ce que vous avez remarqué comment est mentionné le baptême de Jésus? Je relis le verset 20 et 21. Alors, donc Jean a dénoncé Hérode, alors Hérode commit une mauvaise action de plus, il emprisonna Jean. Et alors que tout le peuple était baptisé, Jésus fut aussi baptisé. L'emprisonnement de Jean par Hérode est mentionné avant le baptême de Jésus. Mais c'est bien Jean qui a baptisé Jésus. Il ne s'est pas baptisé tout seul, Jésus. Mais Luc, c'est ce que pense Matthias, Luc veut souligner qu'entre Jean et Jésus, qui sont si proches, ils sont cousins, ils sont remplis du Saint-Esprit avant tout le monde, eh bien, entre les deux, on passe une frontière. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand on descend, on passait la Loire, on était dans une zone soi-disant libre. Eh bien, entre Jean-Baptiste et Jésus, nous passons de ce monde actuel au monde qui vient vers nous et qui est éternel. Nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et c'est Jésus, dans son baptême, qui fait ce passage. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait expérimenter. Alors que tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 21. Jésus s'identifie à un peuple qui s'est fait baptiser. À un peuple qui a entendu l'appel à la repentance de Jean-Baptiste. Il s'identifie au peuple d'Israël qui reçoit toujours à nouveau de Dieu son destin et son avenir. Parce que la pente naturelle d'Israël et la pente naturelle de nous, l'Église, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu pour en faire notre chose et on en fait notre possession. Ça nous appartient. La parole de Dieu nous appartient. Les promesses de Dieu nous appartiennent. Au verset 8, Jean dit aux membres du peuple d'Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, « Montrez par des actes que vous avez changé de vie et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même « Abraham est notre père ». Car je vous le dis, Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham et toute l'histoire d'Israël est issue de cette promesse. On est d'accord. Abraham est bien le père de toute cette histoire d'Israël, de tout ce qui s'est passé. Mais nous considérons quels sont notre patrimoine. Ces promesses, c'est un peu notre patrimoine. C'est un petit peu comme les camisards, là. Voilà, je suis descendant de machin, 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 machin. Voilà, et tout ça, ça m'appartient, c'est mon identité. Mais ça devient vide. Ça devient vide. Et nous n'en faisons rien de ces promesses. Or, si elles nous sont données, elles nous sont toujours données pour qu'elles soient une bénédiction pour les autres, pour chaque être humain. Parce que Dieu est un Dieu salutaire pour tous les êtres humains. Pas ceux que nous, nous choisissons, pas ceux que nous, nous estimons être les bons, pas ceux qui auront coché les bonnes cases sur un tract sur lequel est écrit « Est-ce que vous irez au ciel ?» Je fais référence à quelque chose qu'on a évoqué hier en conseil. Non, Dieu est un Dieu salutaire pour tous les êtres humains. Et combien de chrétiens la vivent de façon à ce qu'elle soit manifeste aujourd'hui à chaque être humain? À nous aussi, Jean doit dire, mais ne prétendez pas que vous êtes les descendants d'Abraham, les descendants des camisards, des huguenots, des apôtres, que vous êtes descendants des protestants, des catholiques, des orthodoxes. Vous voyez là, Dieu, des pierres qu'il y a là. Eh bien, il peut les changer et il peut susciter des enfants d'Abraham. C'est-à-dire des fils de Dieu bien vivants qui, eux, vont transmettre la vie aux autres. Quand on regarde l'histoire d'Israël, Israël n'a cessé de se voir enlever tout ce que Dieu avait promis, à commencer par son temple. Le temple où Dieu pouvait être rencontré en permanence, jour et nuit. Eh bien, le temple disparaît. Et est-ce que pour autant, la promesse de Dieu est caduque ? Non, non. Pourquoi Dieu laisse survenir des événements qui contredisent ses promesses? Eh bien parce qu'avec les promesses de Dieu, nous nous sommes comportés en personnes qui possèdent des choses, une richesse sur laquelle on s'assoit, dont on ne fait rien. Alors que les promesses de Dieu ne nous sont pas données pour que nous possédions quelque chose. Une foi en béton, par exemple, une connaissance prophétique, le don des langues, l'amour dont Alain nous a parlé la semaine dernière, l'amour suprême. Non. Les promesses de Dieu ne sont pas là pour que nous possédions des choses, mais pour que nous donnions sans réserve aux autres. pour que nous donnions sans réserve à la puissance d'expansion de sa grâce. Et la condition pour cette expansion, c'est la repentance. C'est que nous nous mettions au même niveau que les pécheurs, dans l'eau, avec Jésus. Que nous changions de vie. Et c'est Jésus qui est rempli. Ah oui, alors là, Mathias m'a donné un exemple. Incarné, comme il aime bien. Jésus reçoit pour nous tous l'Esprit Saint quand il prie dans son baptême, avec son baptême. Il en est rempli. Alors, imaginez que j'ai un verre et je le remplis d'eau. Je le remplis jusqu'à ras-bord. Et après, je bouge. L'eau, c'est le Saint-Esprit en Jésus. Après, je bouge. L'eau va déborder. Partout où Jésus est passé, le Saint-Esprit a débordé. Et c'est grâce au Saint-Esprit qu'il a pu guérir les malades. Ce n'est pas par sa propre force. C'est grâce au Saint-Esprit qui s'est manifesté par une colombe que Jésus a débordé, la grâce de Dieu a débordé, et il a guéri, il a fait des miracles, il a délivré des démons, etc., etc. Maintenant, imaginez que ce verre, je le mette dans une bassine et que je continue de remplir. Alors lui-même, il a mis son verre à l'envers. Et je remplis, je mets de l'eau. Et l'eau, dans ce cas-là, déborde. Vous êtes d'accord? Vous voyez la bassine, le verre et l'eau. Et ça déborde. Jésus est monté au ciel et de là-haut, il continue d'envoyer son Saint-Esprit et ça déborde sur nous pour que nous puissions aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle, faire des miracles, être témoins de la grâce de Dieu.